Bonjour. Dans un livre passionnant, l'anthropologue Charles Stepanov s'intéresse à la chasse et au fondement de la violence exercée sur le vivant, une violence de moins en moins acceptée en France notamment. Car vis-à-vis de la nature et de la relation au vivant, aux animaux, l'Occident moderne, écrit-il, a inventé un modèle qui articule deux attitudes antagonistes. L'amour de la nature qui condamne et rejette la violence et l'autre qui fait de la violence conquérante un but et une valeur en tant que condition de l'abondance et du progrès. Fin de citation. Ce livre intitulé « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage » va être au cœur de notre entretien avec son auteur dans ce nouveau numéro du magazine Idée, un magazine que vous pouvez podcaster à la page de l'émission sur notre site ou votre plateforme préférée. Merci à vous d'ailleurs qui nous écoutez avec fidélité aussi en téléchargeant l'émission. Bonjour Charles Stepanov.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Votre livre, publié il y a quelques semaines, a eu beaucoup d'échos en France, notamment, ce qui, selon moi, signifie quelque chose sur un thème pareil, la chasse.
Oui, je crois qu'il y avait un besoin d'enquête de terrain, en fait. Moi, vraiment, ce qui a été intéressant dans cette étude, ça a été de rencontrer les gens, d'observer des situations, d'aller au-delà de ce qu'on entend régulièrement dans les médias, d'un certain nombre de stéréotypes qui sont partagés par beaucoup de personnes dans la population, y compris par moi-même. Donc, l'intérêt de l'enquête de terrain, c'est d'aller découvrir, en fait, d'être dépaysé, d'être surpris dans nos attentes. Et je crois que beaucoup de personnes, de lecteurs, effectivement, avaient besoin de ça.
Alors pour vous, vous dites enquête de terrain, un terrain un peu exotique. Vous avez enquêté pour ce livre en grande partie en France, dans la région de l'Eure-et-Loire, on va en reparler, la situer, alors que vous êtes plutôt habitué à travailler en Sibérie.
C'est ça, moi j'ai travaillé pendant 15 ans sur les peuples autochtones de Sibérie. J'ai fait ma thèse sur le chamanisme, les pratiques rituelles traditionnelles de guérison, de relations aux esprits, aux montagnes, à Touva en Sibérie du Sud. Et puis j'ai eu envie d'utiliser ces outils d'analyse, cette problématique sur le rapport des humains aux animaux, sur un terrain beaucoup plus proche, mais finalement pas très connu, un petit peuple pas très connu, les Français ruraux, avec énormément de diversité dans les rapports aux vivants, des pratiques mal connues que j'ai essayé d'éclairer par l'ethnographie.
Alors cette région, on y revient, c'est l'Eure-et-Loire et le Perche, c'est-à-dire dans le centre-ouest de la France.
C'est ça, c'est à 120 km de Paris, c'est entre l'Île-de-France et la Normandie, la région du Perche, et puis les Yvelines, la Beauce, je suis allé au-delà, aux confins de ces régions traditionnelles.
Et de cette enquête, il ressort beaucoup de choses. Votre livre est vraiment passionnant, Charles Stepanov, mais il ressort surtout l'idée qu'il y a à la fois une sensibilité par rapport aux animaux, sensibilité extrême, écrivez-vous, et une insensibilité absolue d'autre part. Il y a un dualisme qu'il faut souligner.
Voilà. Alors ça, c'est notre rapport aux animaux de façon globale dans notre société occidentale moderne. Elle est pleine d'ambiguïté, cette relation. D'un côté, nous faisons preuve effectivement d'une très forte sensibilité qui n'a quasiment aucun équivalent précédemment. Nous ne pouvons pas supporter de voir un poulet se faire égorger, alors qu'il y a quelques décennies, c'était très courant et les mères de famille faisaient ça elles-mêmes pour préparer le repas du dimanche. C'était quelque chose de tout à fait banal, connu, et c'est de plus en plus caché. Donc, on ne peut pas supporter de voir des animaux souffrir, on ne peut pas supporter de voir du sang. Et d'un autre côté, la même société est celle qui produit le plus de violence écologique par la destruction de milieux entiers, par la mise à mort des animaux dans les abattoirs de façon massive, industrielle. Aujourd'hui, 3,2 millions d'animaux sont tués par jour en France. C'est considérable, c'est 4 fois plus qu'en 1800. Donc on a cette ambiguïté, ce dualisme étrange entre le fait que nous ne pouvons plus supporter de voir la violence et d'un autre côté, le fait que personne avant nous ne l'a exercée à une telle échelle.
Alors, cible des critiques, la plupart du temps, surtout qu'on est en pleine saison, la chasse.
Oui, la chasse qui fait l'objet de critiques depuis longtemps, en fait. Dans les mythologies sur la chasse, il y a une critique des excès du chasseur qui peut se bestialiser. Et puis, ces derniers siècles, cette critique s'est intensifiée avec les philosophes, avec Diderot, par exemple. Et puis, ces derniers temps, en France, disons, on va dire depuis les années 1970, il y a vraiment une démocratisation du discours et du sentiment anti-chasse qui était réservé à des élites urbaines intellectuelles et qui devient beaucoup plus général avec aujourd'hui entre 70 et 80% des Français qui sont hostiles à la pratique de la chasse.
Oui, parce que quand on parle de chasse, en tout cas en France, parce que nous sommes écoutés à l'extérieur des frontières françaises, Charles Stepanoff, dans des régions comme les régions africaines, où la chasse a peut-être un autre sens, nous parlons de la chasse en France et en Occident, il y a chasse et chasse. Il y a plusieurs types de chasse, il faut le rappeler.
Tout à fait. Alors, on peut parler immédiatement d'ailleurs de la situation en Afrique. La tradition, à l'époque coloniale, il y a eu une confrontation entre des pratiques de chasse autochtones, qui étaient des pratiques de subsistance, bien souvent liées à l'alimentation, ou bien à des rituels, à l'initiation des hommes, par exemple. Et puis, des pratiques de chasse coloniale, la chasse safari, on va dire, menée par des personnes qui viennent de la métropole anglaise ou française, des gens fortunés évidemment, et qui vont chasser des grands prédateurs pour rapporter des trophées. C'est la chasse aux trophées. En fait, ce contraste, il existe aussi dans la métropole, et depuis le Moyen-Âge, entre d'un côté la chasse des petits, des paysans, qui est une chasse vivrière ou une chasse de défense contre des animaux qui font des déprédations dans les cultures, les sangliers, et qui est illégal parce que la chasse est réservée à la noblesse. Donc ce qui est valorisé, c'est une chasse de la même manière, un peu style safari, une chasse un peu hors sol, qui est liée à un idéal de confrontation virile avec l'animal, et qui exerce une forme de mépris et qui illégalise les petites chasses locales, que ça soit en France ou dans les colonies, avec bien souvent la création dans les colonies de réserves naturelles, dans laquelle seule la chasse safari est autorisée et les chasses vivrières sont interdites, considérées comme barbares et irrespectueuses de la faune.
Alors aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, Charles Stepanoff, c'est que les chasseurs, quels qu'ils soient, revendiquent un droit hérité de la Révolution.
Oui, alors la législation de la chasse est un domaine fascinant parce qu'on a une superposition, y compris aujourd'hui. Hein, il y a vraiment des strates archéologiques de droit qui concernent le droit de la propriété, le droit d'exercer la violence, le droit de porter des armes. Ce sont vraiment des questions régaliennes. Eh bien, dans notre droit, dans notre code de l'environnement français actuel, vous avez des strates qui viennent de la Révolution française, de la loi de 1844, d'autres plus récentes, mais qui restent actives. Qu'est-ce qui se passe en 1789 avec l'abolition des privilèges? Un de ces privilèges abolis, c'est le privilège des seigneurs sur la chasse. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde a le droit de chasse. Et il y a eu un malentendu à ce moment-là, parce que beaucoup de paysans se sont dit « bon, mais les nobles n'ont plus le monopole sur le droit de chasse, donc tout le monde va chasser ». Et c'était la revanche des paysans. Le gibier est à tout le monde. Il est à Dieu, en fait. Il est donné à Dieu. C'est un cadeau du ciel. C'est de la viande gratuite. Donc tout le monde y a droit. Sauf que la Révolution française, elle n'édicte pas ça. Elle est dirigée, évidemment, par les députés qui sont plutôt des classes bourgeoises et qui vont attribuer le droit de chasse, pas à tout le monde, mais aux propriétaires. Donc le droit de chasse devient un attribut du droit de propriété. Ça veut dire que les ouvriers agricoles, les manouvriers, les sans domicile, les fermiers simplement, qui ne sont pas propriétaires de la terre, eh bien n'ont pas le droit de chasse. Donc il y a toute cette population modeste, la plus nombreuse dans les campagnes, qui va se trouver dans l'illégalité pendant très longtemps. Jusqu'en 1945, c'est à cette époque-là que les fermiers obtiennent le droit de chasse. Ça crée des conflits très forts entre la chasse légale, celle de la bourgeoisie propriétaire, et la chasse illégale, c'est le braconnage des paysans et des ouvriers.
Et aujourd'hui, Charles Stepanoff, en quelque sorte, il y a à nouveau une inégalité dans la chasse, parce qu'il est beaucoup question aujourd'hui de la chasse, des chasses privées dans des propriétés encloses. D'ailleurs, un sénateur vient de proposer un projet de loi pour arrêter tout ça, et les chasseurs critiquent ce mode de chasse. privée.
Alors tout à fait, ça fait l'objet de
conflits. Les animaux sont prisonniers de propriété.
Voilà, il s'agit d'une part des grandes chasses commerciales, des chasses de grands propriétaires,
pas très loin de
Sologne.
Oui, c'est ça, pas très loin de la région que vous avez enquêté. Vous avez enquêté.
Voilà, alors plus au sud, c'est un autre écosystème. Hein. Là, c'est vraiment un écosystème qui a été forgé pour une vie de château avec d'immenses forêts qui ont été plantées. Souvent, c'est pas toujours été comme ça. Des mares, des étangs qui permettent de maintenir une faune, un gibier d'eau extrêmement riche.
Une très belle région d'ailleurs, la Sologne.
Très belle région, ouais. Mais la population s'inquiète beaucoup. Il y a beaucoup de mobilisation actuellement par rapport au phénomène, ce qu'on appelle l'engrillagement.
C'est ça.
L'engrillagement de la Sologne, c'est-à-dire que beaucoup de grands propriétaires font le choix d'enclore les territoires. Alors, c'est des territoires qui font des hectares et des hectares, des milliers d'hectares quelquefois, ce qui fait que les chemins de grande randonnée, de plus en plus, ça va être entre deux clôtures de 2 mètres de haut. C'est plus très agréable, on profite plus tellement. Tout ça, c'est...
Et les animaux sont prisonniers.
Voilà, alors il y a un problème.
Ils sont bloqués dans ces
propriétés. Qui peut être inquiétant. Alors, sur d'immenses territoires, ça dépend, les oiseaux peuvent quand même passer. Bon, mais c'est vrai que ça peut causer un problème de fragmentation des territoires et de blocage des flux génétiques. Il faut comprendre que ça, c'est une évolution de très longue durée qui date de la Révolution. À la Révolution, on donne un certain nombre de prescriptions, d'obligations qui soumettent le droit de chasse à des règles, sauf pour les terrains enclos. Il y a cette idée que si vous avez une clôture, vous êtes souverain. Vous pouvez chasser quand vous voulez, même sans permis de chasse quasiment, à la Révolution. Et aujourd'hui, ça reste très très prégnant. Donc ça pousse à une exclusivité, une conception de plus en plus exclusive du droit de propriété, alors que précédemment, même dans la région où j'ai enquêté, des anciens me racontent qu'ils avaient le droit de ramasser du bois sec gisant. Un droit qui remonte au Moyen Âge. Ils pouvaient circuler dans des bois privés pour faire une sorte de glanage. Ce sont des droits communautaires qui n'étaient pas incompatibles avec le droit de propriété. Et de plus en plus, on a une conception exclusive de la propriété. Pourquoi ? Parce que les grands propriétaires veulent protéger leurs forêts des incursions, des gens qui peuvent faire des dégâts, veulent aussi être tranquilles. Alors ça crée des conflits parce que ensuite, les sangliers sont appropriés d'une certaine manière. Et ça, c'est un changement juridique très important. Dans le droit latin, le gibier est res nullius, il n'appartient à personne. C'est la conception en général populaire. Et puis les élites qui entretiennent, qui soignent ce gibier, le considèrent souvent de plus en plus, et c'est le cas maintenant, comme res propria, c'est-à-dire propriété privée.
Oui, c'est ça. Il faut, bien sûr, et c'est ce que vous faites dans le livre, Charles Stepanov, quand on parle de chasse, il faut évidemment parler de l'environnement, du cadre dans lequel s'exerce cette chasse. Et vous étudiez aussi de très près ce qu'on appelle les atteintes à la biodiversité. Biodiversité, un mot un peu fourre-tout, vous prenez des exemples beaucoup plus précis. Par exemple, avec la disparition des haies, avec le remembrement dans les années 50-60.
Tout à fait. Alors, on entend beaucoup parler dans les médias de la chute de la biodiversité, de la sixième extinction des espèces vivantes sur Terre. Et souvent, ça nous apparaît, surtout quand on vit en milieu urbain, comme des statistiques effrayantes. C'est un peu abstrait. Ouais. Donc, je me suis dit, là, les sciences sociales, nous, on a un rôle à jouer pour documenter, enquêter sur ce qui se passe et comment les gens le vivent. Est-ce qu'ils l'observent ou pas ? Est-ce que c'est juste des statistiques ou ça change quelque chose dans leur vie ? Et les chasseurs, bien souvent, c'est les personnes qui sont le mieux placées pour observer, parce qu'ils ont un intérêt à observer la faune, à voir ses évolutions. Parmi les agriculteurs, souvent, j'ai remarqué que les plus intéressés à la présence de perdrix, de chevreuils qui se baladent, qui observent, c'est les agriculteurs qui pratiquent la chasse. Alors que ceux qui sont juste dans le rendement céréalier, eux, vont pas forcément faire attention aux dégâts que les machines pendant la moisson peuvent faire sur les petits lapins et les lièvres. Donc j'ai interrogé ces personnes-là avec des avis très riches souvent. Les anciens qui se souviennent de tous les petits oiseaux qu'il y avait, les chardonnerets, les mésanges, les alouettes ou les hirondelles qui voltaient, qui piaillaient autour des fermes et qu'on ne voit plus. Les personnes qui voyaient des salamandres sous les feuilles dans la forêt, on les voit plus. C'est aussi des champignons qu'on pouvait ramasser. Ça faisait partie aussi d'une petite économie vivrière. On ramassait des champignons dans les prés. Les prés ont été retournés. Maintenant, c'est du maïs, il y a du glyphosate, etc. Autant, finalement, de coprésence, hein, de cohabitants non humains qui faisaient partie de la richesse, de la beauté, de l'émotion, de la vie rurale, qui disparaissent. Donc, c'est des liens émotionnels, vivriers aussi, par la chasse, la cueillette, qui s'effilochent et qui font que, pour ces habitants, c'est tout un monde qui est menacé. Et ça, c'est pas seulement les anciens qui disent, c'est même des jeunes de 25-30 ans qui le voient, parce que ça se fait sous nos yeux. C'est quand même ahurissant la vitesse à laquelle ces espèces disparaissent. 30% des oiseaux des campagnes qui ne sont plus là ces 15 dernières années.
Et il faut s'arrêter un instant sur l'hirondelle, hein, qui émigre entre l'Europe et l'Afrique, la Guinée, la Centrafrique ou la République démocratique du Congo.
Tout à fait, oui, c'est un oiseau formidable qui entretient nos liens avec l'Afrique chaque année et des liens cosmologiques forts parce que en France, quand elle arrive d'Afrique, elle annonce la chaleur, le renouveau du printemps. Et c'est un signe qui marque que les gens observent, dont ils discutent, ils voient si elles sont plus ou moins nombreuses. Et quand on les voit pas trop, quand elles tardent à venir, les gens s'inquiètent. Et a fortiori, quand elles viennent plus sur la maison où on habite. Parce que ça, c'est dans les mythologies rurales traditionnelles à travers toute l'Europe. La présence d'un nid d'hirondelle sur une maison, c'est quelque chose de sacré. Quand l'hirondelle va pénétrer, vous avez les fenêtres ouvertes, elle pénètre, elle fait un petit cercle comme ça.
Caractéristique, oui.
Ouais, on est un peu saisi, c'est beau. Elle est tellement élégante, adroite, elle ne se cogne pas dans les murs, elle ne fait pas de bruit. Eh bien, pour beaucoup de gens, c'est une promesse de bonheur pour toute l'année. Donc forcément, quand les nids restent vides, l'hirondelle, c'est des couples hein, qui reviennent après des milliers de kilomètres au même endroit. C'est quand même fascinant. Eh bien, ils ne reviennent plus. C'est vide. C'est toute une image, en fait, du grand dépeuplement des plaines que les gens observent avec angoisse souvent.
Alors, on pourrait se dire, Charles Stepanov, que face à cette constatation faite par les chasseurs au premier plan, puisqu'ils sont effectivement aussi dans la nature et pour cause, on pourrait penser que ces chasseurs décident d'arrêter de chasser face à cette disparition.
Oui, alors c'est justement l'hirondelle, par exemple, c'est un oiseau sacré et dans les mythologies anciennes, hein, on explique que c'est un oiseau qui a aidé l'homme, qui a apporté le feu, par exemple. Donc l'homme lui doit la cuisine, la civilisation même. En échange, il ne la chassera jamais. Et il l'autorisera à venir s'installer sur les maisons. C'est un mythe fondateur. On imagine plutôt en Asie ou en Afrique, et ça existe, ça existait en Europe. Et pour ce qui est des espèces chassées, alors effectivement, on peut se dire que pour la perdrix, par exemple, qui est un oiseau emblématique de la chasse française, c'était le pivot de la chasse française, on disait, au 19e siècle. Et voilà que dès les années 1930, on voit qu'elle diminue dans certaines régions parce qu'elles sont affectées par la modernisation de l'agriculture, les intrants chimiques, les arséniates de plomb utilisés pour protéger les pommes de terre contre les ravageurs. Et il y a des lanceurs d'alerte qui sont parmi les chasseurs à cette époque-là. Alors, il y a des mesures qui sont préconisées, c'est de limiter la chasse. Mais dès le 19e siècle, un observateur comme Alphonse Toussnel, qui est un chasseur au milieu du 19e siècle, il écrit au ministère de l'Intérieur pour dire qu'il faut limiter la saison de chasse pour protéger les perdrix. Donc, effectivement, il y a des chasseurs qui sont vraiment là, on trouve assez en avance sur leur temps. Au milieu du 19e siècle, c'est les seuls observateurs des conséquences de la modernisation agricole sur la faune. Et les pouvoirs publics, à cette époque, ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas non plus en 1939 à propos des arséniates de plomb. Bon, on peut comprendre, en 1939, bon, il y avait d'autres soucis. Et ensuite, dans les années 50, années 60, à nouveau, il y a des plaintes, des observations qui remontent du terrain sur les perdreaux qu'on voit mourir au milieu des champs. Ensuite, dans les années 90, c'est l'introduction dans l'agriculture des néonicotinoïdes, donc ces produits qui vont affecter le système nerveux, c'est des neurotoxiques qui empêchent les insectes de bouger et les tuent, mais ça a un effet assez semblable sur les oiseaux qui tombent en plein vol. On a eu des observations des chasseurs, qui ont lancé l'alerte. Et dans certaines régions, ils ont assez rapidement interrompu la chasse de la perdrix. Dans d'autres pas, en Eure-et-Loir, on a cru pendant assez longtemps que ça allait rester le dernier bastion. Effectivement, partout ailleurs, la perdrix disparaissait. Elle restait en Eure-et-Loir. Et puis, dans les années 90, avec les néonicotinoïdes, malgré tout, les populations s'effondrent. Et actuellement, dans beaucoup de communes, on n'en voit plus du tout. Et c'est ces dernières années. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « on a vu ». Effectivement, les dernières perdrix, et désormais, il n'y en a plus du tout. Alors, pourquoi on a tardé à réagir? C'est qu'en fait, la solution dans laquelle on croyait, dans laquelle croyaient les pouvoirs publics, l'État, l'INRA, hein, les agronomes, le Conseil supérieur de la chasse, c'était face à la crise de la biodiversité, face au déclin de ces espèces emblématiques, la réponse, ça va être... De même qu'on modernise l'agriculture, on va moderniser la faune sauvage. Ça paraît étrange maintenant, mais c'est vraiment dit comme ça dans les débats politiques au Parlement.
Qu'est-ce que ça voulait dire précisément, moderniser la faune sauvage ?
Moderniser la faune sauvage, ça veut dire reconnaître que ça va être un produit désormais. Ça n'est plus quelque chose de naturel. On peut considérer que ça va se développer de façon spontanée. Désormais, à partir des années 1950-1960, l'humain considère qu'il peut prendre en charge non seulement les céréales, la production du blé, la production des vaches, des moutons, etc., mais aussi du gibier pour le loisir des classes populaires. Sous quelle forme ? Sous la forme d'une industrie de production du gibier. Alors ça a commencé avec le faisan. Déjà les rois avaient des faisanderies dans lesquelles on élevait des milliers de faisans, on faisait des lâchers. Ce qui se passe sous la 4e, la 5e République, c'est que ces méthodes qui étaient royales, seigneuriales sous l'Ancien Régime vont être démocratisées et pour ça industrialisées par les techniques modernes inspirées de l'élevage de poulets qui se met en place à cette époque. On copie. En fait, hein. Et on va avoir des petits poussins de faisans, de perdrix qui sont élevés sous des cloches chauffantes, sans leur mère. Du coup, tout ce qui est la transmission, l'éducation des petits par les mères quand même, bah, c'est observé. La Fontaine le raconte, hein. C'est pas quelque chose d'ignoré que l'éthologie aurait découvert récemment. Tout le monde le savait que la mère perdrix, elle est extraordinairement intelligente, elle ruse. Pour tromper le prédateur, pour sauver ses petits, il y a un lien affectif fort. C'est des couples, c'est un mariage, hein, nous décrivent les auteurs au XIXe siècle, entre le père et la mère chez les perdrix. Quand la mère meurt, le père peut éduquer les petits, leur apprendre à se défendre contre les prédateurs, aller se cacher à telle heure sous les buissons, sous le bocage, pour ne pas être repéré par le faucon, par le busard. Ce sont des savoirs qui ne sont pas innés, en fait. Ça se transmet. C'est des liens affectifs d'apprentissage qui sont niés, anéantis par l'élevage industriel de la perdrix, qui sont lâchés par milliers, millions. Il y en a 5 millions qui sont produites actuellement chaque année, avec des efforts pour les réacclimater. Mais dont les scientifiques nous montrent qu'ils ne peuvent plus être suffisants, puisque depuis les années 50, il y a une sélection des perdrix, des souches les plus productives. Basé sur le principe de produire le plus d'œufs possible et non plus l'adaptation à l'environnement.
Idée, la parole à ceux qui pensent le monde.
Stepanov, quel est le rapport entre du chasseur avec l'animal ? Quel est ce rapport ? Vous dites par exemple qu'il ne faut pas confondre une sympathie souvent exprimée avec l'empathie. Quel est le regard, l'affect, pour être plus précis, des chasseurs par rapport aux animaux ?
Alors c'est tout à fait complexe et je ne voudrais pas généraliser,
non,
puisque on a des mondes sociaux, éthiques, culturels extrêmement divers dans ce qu'on appelle les chasseurs. Hein, c'est un peu un fourre-tout, on y met à la fois, mettons, le Parisien qui va prendre sa voiture et aller chasser en Sologne. Lui, il ne va pas rapporter le sanglier dans son appartement, évidemment. C'est tout à fait différent de la personne qui est agriculteur et qui protège son champ et qui tue le sanglier, qui va évidemment le manger, le partager, entretenir un réseau de sociabilité et qui a vu les sangliers, qui les a observés, qui les connaît presque personnellement. Alors, il y a souvent une forme de complexité, de richesse, évidemment, beaucoup plus vaste et profonde chez les habitants qui pratiquent ce que j'appelle une chasse terrestre que chez ceux qui font une chasse safari, on va dire, ou bien chez les militants, qui vont avoir une vision finalement simple, qui peut être réduite à une phrase, ben, il faut les protéger, ou au contraire, il faut les réguler, il faut vaincre l'animal sauvage pour le chasseur en safari, par exemple. Il y a une ambiguïté profonde chez les chasseurs terrestres qui vient du fait qu'ils sont au quotidien avec ces animaux, pas uniquement pendant la saison de chasse, pendant toute l'année. Ils plantent des haies, ils creusent des mares pour pouvoir les accueillir, parce que ça fait partie de leur mode de vie, parce que c'est des cohabitants, parce que pour eux c'est un désastre, une terre qui devient nue et vide et qui est réduite à des fonctions de production et de rendement. C'est leur maison en fait, la campagne. Et ce sont des êtres, les oiseaux, les renards qu'ils observent, qui font l'intérêt de la vie à la campagne. Et quelquefois qu'ils apprivoisent, effectivement, oui, oui. C'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, ça a été de voir que la personne qui m'a parlé avec le plus de respect, de connaissance, d'observation du renard, c'est une personne qui était responsable départementale de la destruction des renards. De la destruction par déterrage, des gens que moi je connaissais uniquement par les médias, qui nous apparaissent comme des personnages vraiment peu recommandables, assoiffés de sang, qui ont l'air de prendre plaisir à massacrer des renardos. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait lui-même des renards chez lui, apprivoisés, qui l'avait récupéré dans des terriers, et avec lesquels il avait une relation vraiment affective, comme avec des petits chiens, et ses chiens aussi. Alors, on dit, mais c'est complètement bizarre, oui, est-ce que c'est schizophrène?
Ça semble totalement paradoxal, effectivement.
Oui, en réalité, il faut peut-être nous remettre en cause dans notre exigence comme ça de pureté, de simplicité, du rapport éthique et moral, parce que c'est nous qui sommes l'exception. Les occidentaux modernes. Dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs à travers le monde, les chasseurs tuent les animaux et apprivoisent des petits de ces mêmes espèces. Ils tuent la mère, ils récupèrent des petits, et le petit va grandir dans la famille. Les enfants jouent avec lui, il est comme un petit chien, qu'il s'agisse de perroquets, de renardos, d'ours, chez les Inuits ou en Sibérie, hein, des oursons qui sont élevés à la maison, de pécaris, de petits singes en Amazonie, qui sont quelques fois allaité par les femmes, c'est dire si la relation elle est intense. Vraiment, c'est beaucoup plus intense que tout ce qu'on peut imaginer chez nous comme relation avec d'adoption avec les petits. Et pourtant, ces mêmes espèces sont chassées et on s'en alimente et quelquefois on les tue, ces animaux, même apprivoisés, et on les mange. Donc c'est l'humanité. C'est cette richesse, cette complexité de relation aux animaux.
Avez-vous vu des correspondances, des similitudes entre les chasseurs de Sibérie que vous connaissez, que vous avez étudiés, et ceux que vous avez côtoyés en Eure-et-Loir et dans le Perche en France?
Alors, d'abord, il y a énormément de différences, hein, ça c'est certain, parce que c'est une histoire différente. C'est l'État, chez nous, qui a régulé le droit de chasse, a été approprié par la noblesse. Et donc, il y a un côté régalien et inégalitaire et extrêmement institutionnel de la chasse chez nous, qu'il n'y a pas dans des sociétés autochtones de Sibérie, comme les Touvas, les Tojou, chez qui ça fait partie du mode de subsistance. Si on retire la chasse aux gens, ils meurent de faim, c'est tout. Ou ils vont devoir tuer leurs troupeaux de rennes qui sont utilisés pour le transport, donc ils pourront plus se déplacer. Donc à ce niveau-là, évidemment, ça fait une différence. Et ce qu'il y a comme point commun, je les trouve dans des aspects justement mode de subsistance, dans une certaine chasse que j'appelle terrestre, de tradition paysanne, même si elle ne l'est plus entièrement, évidemment, en France, mais chez des gens qui ont grandi à la ferme, qui font un autre métier, mais qui ont maintenu cette culture familiale avec l'idée qu'on tue ce qu'on mange et on mange ce qu'on tue. Ça, c'est commun, effectivement, à la Sibérie et à la France rurale. Et le partage de la viande. Que la viande, il y a un côté, il y a quelque chose de sacré. On ne va pas la jeter. Au contraire, c'est une occasion festive et c'est une occasion de créer du lien social. Donc en France, il y a des règles de distribution de la viande extrêmement normées et hiérarchiques pour ce qui est de la chasse à cour. Et ça, j'ai étudié depuis le Moyen-Âge l'évolution de ces règles qui fait que tel morceau revient au seigneur, tel morceau à la dame, tel morceau au lieutenant, etc. Et dans la chasse populaire, au contraire, ce sont des règles très précises qui visent à créer une communion égalitaire entre les gens avec des techniques pour mettre de l'aléatoire dans la distribution des morceaux de gibier. C'est assez ritualisé. Il y a des petites étiquettes avec des numéros, on fait un tirage au sort pour que chacun reçoivent quelque chose d'équivalent. Ça, c'est assez semblable en Sibérie. C'est aussi assez ritualisé en Sibérie. Il y a la part de l'oncle maternel, de la grand-mère, etc.
Vous avez utilisé le mot ritualisé, Charles Stepanov. La chasse est aussi un rituel. En France, par exemple, ce sont des habitudes. Ce sont des traditions, ce sont parfois même des défenses identitaires, de territoires, de terres.
Oui, c'est quelque chose d'important à prendre en compte quand on envisage particulièrement la chasse terrestre. Alors pourquoi j'appelle terrestre ? C'est parce qu'elle n'est pas focalisée sur le face-à-face entre l'humain et la bête. Face-à-face entre l'humain et la bête qui, lui, a lieu... typiquement dans le safari, où l'occidental, il arrive, il a pris son billet d'avion, il débarque, et ce qu'il veut, c'est être face au lion, ou face à l'éléphant. Voilà. Et ensuite, il rentre chez lui. Évidemment, le local, l'autochtone, ou le paysan en France, sa relation avec l'animal, elle est toujours médiée par la terre, qui est leur habitat commun, comme je le disais, c'est leur maison commune. Et la confrontation entre... le cerf ou le renard et le chasseur en France, elle passe par une confrontation entre des connaissances du territoire. Ça va être par des ruses. Ça va être celui qui va être plus rusé que l'autre, qui connaît le mieux le territoire, les passages, les cachettes. C'est lui, entre l'homme et le renard, qui va l'emporter. Donc c'est pour ça qu'on a un lien très fort au territoire dans la chasse et à travers le monde, des revendications d'autochtonie qui passent par la chasse, qu'il s'agisse de peuples dans des régions colonisées ou anciennement colonisées, en Sibérie, en Alaska, en Afrique, ou sur des territoires français, ou dans les Cévennes, par exemple, il y a eu beaucoup de confrontations entre, au moment où a été créé le parc naturel des Cévennes, entre les chasseurs et puis les pouvoirs publics.
Charles Stepanov, il y a aussi de nouvelles habitudes qui se créent, de nouveaux rituels. Vous développez, et ça vous effraie vraiment, vous développez un nouveau rituel que vous appelez rituel néo-sauvage, qui apparaît petit à petit en France, et notamment avec les femmes.
Oui, oui, oui,
rituel... Parce qu'il y a des femmes qui chassent.
C'est ça. Alors voilà, sociologiquement, il se passe quelque chose actuellement dans la chasse. C'est l'arrivée des femmes. Alors qui, pendant des siècles, n'ont pas chassé, sauf dans l'exception de la chasse aristocratique. Mais à travers le monde, il y a des tabous qui interdisent le fait que des femmes fassent couler le sang. Elles peuvent chasser, mais avec des gourdins ou avec des filets, par exemple. Et aujourd'hui, ça change. On voit actuellement dans les permis de chasse, les nouvelles personnes qui s'inscrivent et qui passent le permis, il y a 15% de femmes. Donc actuellement, elles sont encore peu nombreuses sur l'ensemble des chasseurs, mais on voit que c'est en cours d'augmentation. Et alors, il y a un rituel qui m'a surpris, effectivement, que j'ai découvert au cours de l'enquête, qui s'appelle le baptême du chasseur, dans lequel pas mal de femmes sont impliquées. de façon disproportionnée par rapport à leur présence réelle chez les chasseurs. Je me demandais pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rituel ? C'est une pratique qui consiste, quand le chasseur tue son premier gros gibier, un sanglier souvent, ou un cerf ou un chevreuil, on va maculer son visage du sang de sa victime. C'est un ancien qui le fait, ça peut être son grand-père ou le responsable de la chasse locale. Et puis, quelquefois, c'est plus gore, comme on dit. On peut poser la tête du sanglier sur la tête du jeune homme ou de la jeune femme, déverser du sang, lui faire ingérer des parties du corps de l'animal, le foie par exemple, ou le cœur cru.
Et comment expliquer cette apparition ?
Alors déjà, moi, ce qui me frappe comme anthropologue, c'est que ça ressemble beaucoup à des pratiques sibériennes, hein, qui sont connues, décrites depuis longtemps, et qui sont des rituels d'initiation, un rite de passage du jeune chasseur qui entre dans la classe des adultes, des hommes, quand il a tué son premier gros animal, avec les mêmes pratiques, avec de l'ingestion de parties crues qui sont tabous. C'est normalement des parties qu'on doit manger cuites, évidemment. Mais là, il y a une espèce d'infraction rituelle volontaire. Pourquoi ? Pour créer une forme de lien consubstantiel entre le chasseur et sa victime, l'animal qu'il a tué. Une volonté d'appropriation de la force à l'état brut dans les organes les plus profonds, les plus porteurs du sang sauvage de l'animal. Appropriation donc par le jeune chasseur ou la jeune chasseresse. Alors pourquoi ça se développe maintenant ? Ça, c'est plutôt surprenant. À tel point qu'il y a beaucoup de chasseurs qui le pratiquent, qui pensent que c'est quelque chose de très archaïque, très ancien en France. Et c'est vrai que c'est un petit parfum comme ça, barbare, sauvage, choquant pour beaucoup de gens, hein, extérieurs à cette pratique. Comment le comprendre ? En fait, non, c'est récent. Ça se répand. J'ai cartographié l'expansion de ce phénomène à travers la France. Ça se répand ces dernières décennies. Ça vient de l'est de la France, du nord-est, de l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté. Et ça se répand parce que ça répond à un besoin. Si un rituel se répand, ce n'est pas une volonté des institutions. Au contraire, elles vont trouver ça plutôt anti-hygiénique, dangereux. Oui. Et évidemment, ça ne donne pas du tout une bonne image, une image du chasseur régulateur, écologiste. Non, ça ne va pas du tout dans le sens de ce que voudraient les institutions. Donc, ça se répand de façon spontanée, de proche en proche. Une personne qui l'a passé va le faire passer à d'autres, hein, comme un rite de bizutage.
Mais qui est assez surprenant. Vous avez des mots assez forts. D'ailleurs, vous dites il s'agit d'exhiber avec une démesure scandaleuse ce que l'éthique et la pudeur moderne cherchent à dissimuler, la violence, la mort et la part sauvage d'une humanité qui, loin d'être autonome et fermée sur le sentiment de sa dignité et de son exceptionnalité, se nourrit par incorporation physique d'une altérité non humaine.
Oui, oui, c'est ça. Bon, phrase un peu longue peut-être en l'entendant, mais l'idée c'est que effectivement, si on a une mise en scène ainsi d'une forme d'incorporation à l'état cru du sang, de la chair de l'animal sauvage, on a aussi des scènes où le chasseur doit mimer le comportement de l'animal. Il doit crier comme le sanglier. C'est des pratiques qu'on a à travers le monde entier, chez les San du Kalahari, en Afrique du Sud, en Sibérie également. Chaque fois, le sens de ces pratiques, c'est que l'humain devient humain, devient adulte en incorporant de l'animalité. Et ça veut dire que l'humanité a besoin d'extériorité, elle a besoin d'autre chose qu'elle-même pour se constituer. Et il y a une part d'animalité dans l'humain. C'est un message profond, effectivement, et choquant pour notre modernité, puisque tout le travail de la modernité, ça a été d'évacuer notre animalité, la cacher, la repousser, pour devenir des vrais civilisés.
Et encore une fois, il est curieux que ça réapparaisse aujourd'hui.
Oui, parce que on voit que ce désir de civilisation, purification de notre humanité, de tout ce qui est extérieur, le fait de cacher la violence, de cacher l'animalité, l'expulsion des animaux de nos environnements, ça aboutit à une crise, c'est peut-être dans une impasse.
Merci Charles Stepanov. Il faut lire absolument votre livre, gros livre, qui s'intitule « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage ». Il est publié aux éditions La Découverte.
Merci beaucoup à vous.
Idée écourtée pour vous permettre de suivre la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Idée réalisée par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité sur RFI.